Louis Albran a grandi dans une ferme à Saint-Crépin. Il connaît bien la vie des paysans des Hautes-Alpes dans les années 50 et a créé une collection d'objets qu'il a partagés sur les réseaux sociaux. Cette passion de l'histoire du terroir l'a conduit à étudier les archives du département et à retrouver la trace des femmes et des hommes qui ont marqué notre territoire à travers les âges. Il les évoque ici en descendant le cours de la Durance. Il nous présente chaque semaine la biographie de chaque personnage de ce territoire alpin sur Fréquence Mistral. Au micro de Laura Giraud.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous retrouvons Louis Albran et nous continuons l'histoire des personnages hauts alpins. Bonjour Louis.
Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui toujours de l'histoire de nos vallées à l'époque de l'an 1000 et l'époque des Sarrasins. En Europe, l'an 1000 est synonyme de grandes mutations dans la société. Beaucoup pensent que la fin du monde va arriver. On attend l'an 1000, il y aura la fin du monde. On vend la maison, on fait pénitence dans l'espoir que Dieu nous accordera la vie sauve et le pardon des péchés. Donc le mysticisme, vers l'an 1000, est une règle de vie, un mode de vie. Et les hautes vallées, nos vallées, le Briançonnais, la Valouise, la Fraissinière, le Queyras, attirent un grand nombre de jeunes épris de silence, de solitude et de paix. Ils fuient déjà le bouillonnement frénétique des villes où la moindre faiblesse est sévèrement sanctionnée. Si l'ombre et la peur de l'enfer de l'an 1000 est constante, la pureté de l'air chez nous, la simplicité de la vie, font fleurir d'innombrables chapelles et monastères. Je pense par exemple au monastère près d'Embrun. Je pense aux moines et moniales qui se réfugient dans toutes les vallées et donnent un sens à leur existence. Au XIe et XIIe siècle, la plupart d'entre eux aspirent à la vie contemplative, au sacrifice à Dieu, à qui ils donnent leur corps et leur âme. Quelques siècles plus tard, au temps des hérétiques, nous avons déjà parlé des guerres de religion au XVIe siècle, on trouvera des pierres sur lesquelles on exalte le désir de la mort et le mépris de la vie. Par exemple, à Busson, hameau de Cesana Torinese, tout de suite après le col du Mont Genèvre, la Casa delle Lapidi, la maison des pierres, on retrouve cette belle inscription « Donne-moi, Seigneur, la grâce si rare du mépris de la vie et de l'attente de la mort ». Voilà l'état d'esprit vers l'an 1000. Mais quelques siècles avant, en 726, Abbon, recteur de la cité de Maurienne et de Suse, a fondé un monastère au lieu-dit de la Novalaise. Cette étroite vallée qui relie le Val-Suse à la Maurienne et au col du Mont-Cenis. Au VIe siècle, le roi mérovingien Gontran avait profité des invasions lombardes pour occuper le Val-Suse et l'attacher à la Gaule franque. Comme toutes les terres en amont des cluses lombardes d'Avigliana, la Novalaise fait partie de l'espace burgondo-provençal et sous la direction du diocèse de Saint-Jean de Maurienne. La tradition locale n'est pas forcément respectée, mais la position géographique de la Novalaise, véritable poste frontière des Francs en direction des Lombards, permet déjà une frontière. La tradition considère que l'an 906 est la date de l'invasion de la Novalaise par les Sarrasins. Ils pillent et détruisent malheureusement une très belle bibliothèque. Le fameux monastère d'Oulx fut aussi détruit. Les moines d'Oulx avaient leurs vignes à Saint-Grépin et à Réautier. L'évêque d'Embrun leur offre son aide et une généreuse dotation pour la reconstruction de l'abbaye. Les pèlerins de Rome qui empruntent les gorges de Saint-Gervais en descendant du Mont Genèvre était une proie facile et sans défense et se réfugiait au monastère. Mais à partir des années 980, les armées chrétiennes chassent les intrus sarrasins. Tant des superstitions, tant d'espoir, pour avoir une vision de ces 11e et 12e siècles, il faut comprendre que ce furent pour nos ancêtres des siècles difficiles, très difficiles. Fascinante peur des contagions entre l'animal et l'homme, des épidémies sont déjà là. Mais il y a une nouvelle hiérarchie sociale qui s'installe, ce qu'on appelle le pouvoir des familles. Dans une période relativement stable, au XIIIe siècle, le développement du commerce, des routes, des lieux habités, encourage la création de bourgs plus importants. Prenons l'exemple de quelques-unes de ces puissantes familles de notre région. Les flottes. Les flottes sont présentes au début à Crest. Elles utilisent les territoires d'Arnaud, la Roche des Arnauds a gardé son nom jusqu'à nos jours. Les flottes présentes à la Roche en 1044 et jusqu'à la Révolution ont rayonné longtemps dans tous les territoires hauts alpins. Une trentaine de fiefs leur appartiennent et ont leur lien de sang et d'alliance avec des dizaines de familles de la haute noblesse. Nombreux sont chevaliers de Malte, militaires de haut rang, illustres prélats. Pendant l'été 2016, on a découvert, les archéologues ont découvert dans les Hautes-Alpes, entre Raboux et la Roche des Arnauds, au pied de la falaise du Pic de Bure, ils ont ramené à la surface un nombre consistant de ruines de monastères que l'on croyait perdus, Notre-Dame de Berthaud. Il s'agit d'une chartreuse du XIIIe siècle. Un couvent a été déjà conçu au XIIe siècle par Arnaud de Flotte, homme très pieux, épaulé par sa mère et ses frères. La proximité d'un désert minéral était censée apaiser et simplifier le rythme de la vie et anéantir le péché pour le bien des êtres humains. Arnaud est très populaire, très puissant. En 1202, il est invité au mariage du dauphin Guide André, un honneur hors pair à l'époque pour un seigneur haut-alpin. Il mourut paisiblement en 1224. Son fils Robert fut renommé à leur tour évêque à Vaison. Quasica, seigneur entre 1250 et 1276, agrandit le château, apporte son aide aux Templiers. Arnaud VI, que l'histoire définit comme l'homme qui ne respectait ni Dieu ni les hommes, viendra ternir la belle réputation de cette lignée. Arnaud VI se bat aux côtés du dauphin contre le duc de Savoie, mais c'est un personnage courageux sur les champs de bataille, mais d'un comportement très contestable avec un côté noir. À 26 km de Gap, près des ruines d'un village romain, se trouve Monetti-Almont. Sous le règne du dauphin Humbert, les habitants trouvent un véritable trésor en pièces d'or. Arnaud de Flotte avait caché là son trésor. Devant le refus de la population qui veut garder ce trésor, il les persécute et leur vole le butin. Voilà qui était ce seigneur. Il a fallu l'intervention du duc de Provence pour que Arnaud de Flotte renonce à son passe-temps préféré, broyer les pauvres et les innocents. Il mourra en 1353. Voilà quelques pierres encore visibles de la ferme et de l'abbaye de Berthaud, près du ruisseau, nous rappellent la naissance en 1730 du grand botaniste alpin Dominique Schex. Avec son ami fraternel Dominique Villard, il fut à l'origine de l'introduction de la botanique dans le Dauphiné.
Merci beaucoup, à bientôt.